Joanne DM. Et voilà, je savais bien. Tout le monde aime Radio MDM.
Ça s'est passé ce mardi 30 novembre à Mont-de-Marsan. 500 scolaires, collégiens et lycéens de l'agglomération montoise et de Saint-Sevé réunis au théâtre Le Molière pour un rendez-vous avec l'histoire et avec Esther Senot. Esther Senot matricule 58 319 rescapés du camp d'Auschwitz-Birkenau où ont péri ses parents et trois de ses sept frères et sœurs. À 93 ans, et malgré une récente hospitalisation en urgence à Paris, Esther Senot a répondu à l'invitation lancée par trois enseignants du lycée Victor Duruy, parmi lesquels le professeur de sciences économiques et sociales, Éric Fricot.
Sa venue, elle s'est greffée sur un projet de voyage qui est prévu au lycée Victor Duruy, avec mon collègue M. Delmas, professeur d'histoire, et M. Dupouille également. Le voyage est prévu au mois d'avril, entre le 9 et le 16 avril. Donc on repart sur le projet habituel qu'on fait au lycée Victor Duruy, le camp d'extermination d'Auschwitz, Prague en amont sur toute la culture juive, et puis Nuremberg pour l'historique du parti nazi. Et bien évidemment, c'est une des dernières personnes qui est en vie aujourd'hui malgré son âge. Et elle avait une histoire particulière à Mont-de-Marsan, comme elle l'a évoqué avec les élèves. Ça nous a paru intéressant de pouvoir la mobiliser sur cette histoire-là, sur ce projet, et puis évidemment en relation avec ce qu'elle a vécu à Auschwitz.
Car la vie d'Esther Senot durant la guerre s'écrit en effet à Mont-de-Marsan, où à 14 ans, elle franchit seule la ligne de démarcation, et presque 80 ans après, elle a ainsi reçu hier du maire Charles Daillaud la médaille de la ville, avant de raconter sans détour et frontalement les heures sombres, mais aussi l'après-guerre.
Oui, parce que en plus, là, Esther a évoqué hier le retour à la vie et en fait l'indifférence générale qu'elle a subie et en gros qui a duré une trentaine d'années en France. Tout a changé d'abord avec le livre de Paxton dans les années 70 sur Vichy et les Juifs. Puis après, on a eu Holocauste, on a eu Martin Gray, on a eu la liste de Schindler. La parole s'est libérée. Elle-même, elle a témoigné à sa retraite à partir du milieu des années 80. C'est vrai que ça fait 30 ans qu'elle sillonne la France. Et comme elle le disait, j'ai toujours cet accueil favorable, même dans des endroits compliqués. Elle nous a expliqué à Perpignan, dans des endroits où il y a plus de difficultés par rapport à l'origine des jeunes. Même dans ces conditions difficiles, elle arrive à retourner les classes et à les faire réfléchir. Donc je pense que son œuvre est utile et tant qu'elle pourra le faire, c'est important qu'elle puisse continuer.
Et les Landes et son chef-lieu n'ont pas échappé à la règle. Les réactions au sortir du théâtre parmi les plus jeunes, de Naïcha, CM2 à l'école Jean Moulin, à Lorenzo et Alia, tous deux 14 ans respectivement des collèges Rostand et Duruy.
J'ai ressenti de la peine parce que je me suis imaginée à sa place et j'aurais pas aimé vivre tout ce qu'elle a vécu. Et du coup, ça m'a peinée pour elle. Comment elle a été traitée au camp où elle était. Ça m'a choquée un peu. Mais après, je m'y attendais parce que ça allait pas être tout rose.
Ce qu'elle a pu raconter, est-ce que tu avais une idée que oui. Les hommes puissent être à accomplir des choses aussi atroces pour anéantir un peuple?
Oui, j'en ai conscience. Je le connaissais un peu déjà, donc...
Ouais. Pas étonné de ce qu'est capable de faire l'être humain.
C'est quand même impressionnant, mais oui.
C'était émouvant et c'était triste aussi.
Qu'est-ce qui t'a le plus choqué, rendu triste?
Qu'elle était rendue dans des camps juste parce qu'elle était juive.
Tristesse et le choc même parfois dans les rangs des lycéens, parmi lesquels Alexandra, Esmé et Ethan à Jean Cassaigne, ou encore Héloïse et Maxime au lycée Victor Duruy.
C'était très émouvant, je trouve, et c'est bien qu'elle partage et qu'elle fasse ce devoir de mémoire pour que tout le monde se souvienne de ce qui s'est passé et pas que justement ça finisse dans l'oubli.
C'est des choses qui ont été racontées sans filtre, comme ça, qu'est-ce qui vous a marqué le plus?
Moi je pense des conditions à Auschwitz, qu'ils devaient travailler jusqu'à ce qu'ils meurent, c'est assez inhumain.
Pareillement, et la promesse qu'elle a faite à sa sœur avant que sa sœur ne meure pour qu'elle puisse partager tout ce que les Juifs ont subi durant cette deuxième guerre. Quand on en parle, ça paraît juste inimaginable de se dire que c'était il y a presque moins de 100 ans, quoi. Donc ouais. On peut s'en rendre compte, mais quand on ne l'a pas vécu, c'est pas du tout la même chose. Et c'est bien qu'il y ait des gens encore qui puissent le raconter à des élèves comme nous.
C'était vraiment poignant de s'imaginer qu'elle était plus jeune que nous et qu'elle a vécu tout ça. On relativise par dans tout ce qui se passe dans nos vies qu'on pense important, alors que quand on voit ce qu'elle, elle a vécu, c'est impressionnant, voilà. C'est vrai que comme on le voit en histoire, en cours, mais c'est pas, on ne peut pas imaginer que ce soit horrible à ce point-là, quoi.
Sincèrement, c'est quelque chose que chaque élève devrait pouvoir rencontrer une personne comme ça. Et donc, justement, d'avoir son ressenti et ce qu'elle a pu ressentir, en fait, quand elle a vécu ça.
Ce sont les dernières, voilà, il n'y en a plus beaucoup, malheureusement. Le temps va faire son œuvre. C'est une chance de pouvoir rencontrer une personne comme elle.
Ouais. Enfin, c'est une chose d'apprendre ça dans les livres d'histoire, géo, comme ça. Et c'est une autre, vraiment, d'entendre le témoignage de quelqu'un qui a vraiment vécu ça, qui a survécu à quelque chose comme ça. Moi, je suis très heureuse. Et,
ouais. On ne se connaît pas, mais j'ai l'impression que tu es très touchée aussi.
Ah oui, oui, oui. Ouais. Oui. Enfin, moi, c'est surtout qu'elle avait vraiment... Enfin, moi, j'ai 17 ans, donc elle était encore plus jeune que moi. Et enfin, que ça avait pu se passer, c'est... Enfin, on ne s'en rend pas compte. Hein. C'est d'une ampleur, c'est... Enfin, voilà.
Juive polonaise de parents communistes, habitant le quartier de Belleville à Paris, Esther Senon avait en effet seulement 14 ans au moment de la rafle du Veldiv, à laquelle elle échappa miraculeusement, contrairement hélas à son père, sa mère et l'un de ses 5 frères. Recueillie ensuite par une concierge et avec l'aide d'un passeur, elle décide de se rendre à Pau pour rejoindre un autre de ses frères, mais doit d'abord passer par Bordeaux puis Mont-de-Marsan. C'est ce qu'elle nous raconte, une histoire qu'elle narre par ailleurs dans son livre coécrit « La petite fille » du passage Ronce aux éditions Grasset, mais également pour nous, au cours de cet entretien essentiel, Esther Senon.
Quand je suis arrivé, donc, que je me suis retrouvé à Bordeaux, dans mes souvenirs, la gare routière ne devait pas être loin de la gare SNCF. Et quand je suis arrivé, que j'ai vu la quantité de gendarmes et puis les gens qui étaient arrêtés là, ça grouillait de partout. Alors, je me suis dit, je ne vais pas les mettre dans la gueule du loup. Donc, je me suis quand même dirigé sur la gare routière. Et là, effectivement, j'ai trouvé un car qui est à la Mont-de-Marsan. Alors, les gens montaient. Et puis, au moment de démarrer, le chauffeur, il me voit sur le pas de la porte. Il descend, il me dit, qu'est-ce que tu fais là? Où sont tes parents? Parce qu'il pensait que j'étais avec que je m'étais échappé de la gare ou des choses comme ça. Alors, je lui dis, non, mes parents ne sont pas là, je suis toute seule. Il me dit, tu vas où, toi? Alors, je lui dis, je voudrais aller à Mont-de-Marsan, parce que je savais qu'on allait traverser la ligne là. C'est pas possible. Il dit, tu ne te rends pas compte? Je dis, oui, mais j'ai pas de solution. J'avais un passeur qui m'a laissé tomber. Alors, il m'a dit, écoute, monte dans le car, quand on arrivera à Mont-de-Marsan, je vais voir ce que je peux faire. Alors finalement, je suis monté dans le car et quand on est arrivé à Mont-de-Marsan, il m'a dit, écoute, on ne rentre pas dans la ville. Alors il a été trouvé des amis à lui en disant, est-ce que quelqu'un veut faire passer la ligne à cette gamine qui est toute seule? Alors ils étaient tous désolés, ils se sont excusés en me disant, non, la ligne est doublement gardée. Il me dit, non, c'est trop dangereux, on ne peut pas prendre le risque. Il a parlementé avec pas mal de gens pour essayer de me trouver une solution. Et puis il y a un jeune homme qui est arrivé, il m'a dit, écoutez, moi je vais vous emmener en bordure de la forêt des Landes, je vais vous expliquer, vous allez voir. Alors finalement, je suis parti avec lui. Alors je suis parti avec ce jeune homme et on est arrivé en bordure de la forêt des Landes. On est descendu dans un fossé et il a commencé à m'expliquer comment il fallait faire. Alors il m'a dit d'attendre qu'il fasse nuit, bien sûr, fin juillet, il fait nuit à 10h30, 11h du soir. Et il a commencé à m'expliquer, évidemment, qu'il aurait fallu franchir cette ligne. On apercevait la forêt, que j'allais trouver une ligne de chemin de fer désaffectée, que je devais suivre jusqu'au bout, je sais pas jusqu'où elle allait. Ensuite, il m'a expliqué des petits chemins de traverse, une à droite, j'allais trouver je sais plus quoi, à gauche, enfin bref, pendant une demi-heure, il m'a fait répéter ma leçon pour voir si j'avais bien compris. Et puis il est parti. Ouais. Alors j'ai attendu qu'il fasse nuit. Je suis sorti de mon trou et croyez-moi, là, j'ai couru vite, parce qu'il y avait, il y avait bien 500 mètres, visible. Puis à 14 ans, on court vite. Puis je suis rentré dans la forêt, effectivement, j'ai trouvé cette ligne de chemin de fer que j'ai longée pendant un temps infini, pendant toute la nuit. Toute la nuit, en tournant en rond, puis épuisé. De temps en temps, je m'asseyais, mais si je m'assois, je vais perdre du temps. J'ai marché comme ça toute la nuit jusqu'au petit matin. Il faisait à peu près 5h30, il faisait à peine jour. J'ai aperçu une ferme. Alors, je me suis dirigé, mais évidemment, il y a un chien qui a commencé à aboyer. J'ai vu sortir un vieux monsieur, un vieux paysan de cette ferme, qui m'a dit complètement affolé, mais qu'est-ce que tu fais là en pleine nuit? Puis j'ai fini par lui dire que je me suis perdu. Il m'a dit, comment ça, perdu? Alors, il me dit, tu voulais traverser la ligne? Je dis oui. Alors, je dis, je suis où? J'étais arrivé à Grenade sur la Doure. Les grenades sur la Dour étaient en zone libre.
Oh,
ben, ça faisait à peu près 15
km. 15 km.
Vous savez, moi, la géographie des Landes, hein, je ne connaissais pas beaucoup. Mmh. Alors, il m'a fait rentrer dans sa ferme, il m'a nourri, parce que ça faisait déjà 48 heures que je n'avais rien mangé. Posé, puis j'ai dit, mais comment on fait pour aller à Pau? Alors, il me dit, il y a un car qui passe à Grenade sur la Dour, et il va à Pau. Alors, il m'a accompagné avec sa carriole, il avait une carriole avec un cheval, il m'a donné pas mal de ravitaillement, il m'a donné de l'argent, vous voyez que... Et puis, il m'a emmené donc à l'arrêt du bus et je suis arrivé à Pau.
Le monsieur de Grenade que vous avez croisé, qui vous a donné des victuailles, que vous avez laissé passer, vous avez eu des nouvelles de lui?
Non, jamais, parce que j'aurais été incapable de savoir où il était.
Pau, c'est là où Esther Senot restera en compagnie de son frère durant près de 3 mois avant que ce dernier ne rejoigne la résistance française en Afrique. Dès lors, la jeune adolescente choisit de remonter vers la capitale, persuadée de pouvoir retrouver ses parents vivants. Mais c'est sa sœur Fanny qu'elle retrouvera à Auschwitz-Birkenau. La quête vaine d'Esther Senot aura en effet pris fin en juillet 43 lors d'un contrôle d'identité par la police française dans le métro parisien, avant presque fataliste son transfert à Drancy.
Quand j'ai été arrêté et que je me suis retrouvé au camp de Drancy, tout le monde pleurait, tout le monde se lamentait. Pour moi, ça a été un soulagement parce que je me suis dit, ça y est, j'ai fini de traîner la galère, parce que vous savez, il y avait toujours la hantise de se faire arrêter. J'ai dit, ça y est, je suis arrêté, j'ai fini de traîner la galère, je vais retrouver mes parents. Vous savez, vraiment, jusqu'à la fin, on se faisait des illusions. Hein. Vous savez, ils étaient bien organisés avec les fichiers et tout. Ils connaissent mon nom, ils savent où sont mes parents. Je vais certainement retrouver mes parents, moi.
C'est la réflexion de quelqu'un qui ne croit pas que le monde puisse être aussi atroce.
Bien sûr. Alors, finalement, quand il y a eu la sélection, j'ai encore eu la chance d'être dans la bonne file, parce qu'on a été sélectionné à 106 femmes seulement pour entrer travailler au camp, et tous les autres ont été envoyés au crématoire.
Il y a une phrase, c'est quand qu'on vous dit, à quel moment on vous dit, vous êtes arrivé ici en train, vous repartirez par la cheminée?
Quand on a été rasé, tatoué, rasé, on a demandé aux personnes qui nous tatouaient, mais les gens qui sont montés dans les camions, on était un peu sceptiques quand on a vu les femmes, les enfants, les vieillards, en se disant qu'est-ce qu'ils vont faire. Ils disent, vous inquiétez pas, vous les jeunes, vous irez travailler, le soir, ce sera un regroupement familial. Évidemment, quand on est arrivé dans le camp de Birkenau et qu'on a vu cette fumée, on pensait que c'était une usine. Hein. Qui en 39 ou en 40 connaissait le mot crématoire? Jamais on n'avait entendu ce mot.
Et quand vous comprenez?
On leur a dit, une fois qu'on a été tatoué tout ça et qu'on a été précipité dans les baraques, en disant, mais les personnes qui sont montées dans les camions, à quel moment on va les retrouver? Et c'est là qu'ils nous ont expliqué le fonctionnement du camp.
Quand vous retrouvez votre sœur?
Le soir, une fois qu'on a eu la distribution de la soupe et puis de la tranche de pain, on avait le droit d'aller dans les latrines, parce que dans la journée, on n'y avait pas le droit. Alors évidemment, là-dedans, ça sentait tellement mauvais que les capots, elles restaient dehors, et toutes les autres baraques avaient la possibilité de venir aussi. Et c'est elle qui m'a reconnu. Alors ma sœur m'a reconnu, alors évidemment, les retrouvailles... Ça a été très pénible, et quand elle m'a demandé où je travaillais, je lui ai dit que je travaillais dans les commandos extérieurs, je savais très bien qu'on pouvait pas tenir un hiver. Et là, elle avait fait la connaissance d'une jeune femme qui s'appelait Mala, c'était une Belge, elle avait été déportée de Belgique, et comme elle parlait plusieurs langues, elle servait d'interprète dans les bureaux allemands. Donc elle avait la possibilité, il y avait tellement de morts, de falsifier des fiches, donc elle a réussi à me faire sortir de ce commando, et je travaillais à l'intérieur du camp. Alors déjà, à partir de janvier 44, j'étais plus à l'extérieur, si vous voulez. Il y avait déjà moins, à part les appels, il y avait déjà pas les intempéries. Et puis, vous savez, pour les Allemands, ça posait pas de problème. Comme à l'époque, ils occupaient pratiquement toute l'Europe, les transports arrivaient de l'Europe entière, de la chair fraîche, ils en avaient toujours. Ouais.
Les retrouvailles vont être de courte durée. Elle est mordue par un chien.
Elle a été mordue par un chien déjà, puis elle a commencé à cracher le sang. Alors, le matin, entre l'appel et puis le café, on avait quand même 5 ou 10 minutes où on pouvait à peu près préparer les affaires pour aller travailler, enfin bref. Donc elle était dans une autre baraque, parce que chaque commando avait une baraque différente. Alors tous les matins, pendant 5 minutes, j'allais la voir. Et là, quand je suis arrivé dans la baraque, on m'a dit, elle est partie à l'infirmerie. Alors là, l'infirmerie, c'était l'antichambre de la mort. Alors je me suis précipité, effectivement, elle était couchée sur une paillasse. en crachant le sang, enfin complètement. Alors je lui dis, écoute, Fanny, il faut te lever, parce que quand les gens n'allaient pas à l'appel, l'après-midi, si elles n'allaient pas à l'appel, elles n'allaient pas au travail. Donc l'après-midi, il y avait la charrette qui venait, puis qui les embarquait au crématoire. Hein, puis nous, on savait ce qui arrivait aux gens qui n'allaient pas travailler. Alors je lui dis, écoute, Fanny, je vais t'aider à te lever, il faut te lever, il ne faut pas rester là. Elle me dit, écoute, laisse-moi tranquille, pour moi c'est la fin, j'ai essayé de tenir, mais j'en peux plus. Et puis elle me dit, ce que je regrette, c'est de ne pas être montée dans les camions tout de suite, parce que les gens qui montaient dans les camions, ils ne savaient pas où ils allaient. Hein. Et puis finalement, elle a fini par se soulever, elle m'a pris dans ses bras, et puis elle m'a dit, écoute, toi t'es jeune, la guerre va bientôt finir, t'as peut-être une chance de revenir, toi, t'es jeune, t'as l'air de tenir le coup. Elle me dit, surtout tu me promets, alors là, pendant je ne sais combien de fois, tu me promets que si t'as la chance de rentrer, de raconter ce que les hommes sont capables de faire à d'autres personnes, et surtout qu'on ne soit pas les oubliés de l'histoire. Et puis elle s'est rallongée sur sa pagasse et j'étais obligé de partir au travail. Hein. Et quand je suis revenu, effectivement, elle n'était plus là.
Puis, début 45, face à l'avancée de l'armée rouge, ce sera pour Esther Senon, la sinistre marche de la mort encadrée par ses tortionnaires et afin d'évacuer à pied, dans le froid et la faim, les prisonniers survivants, afin qu'ils ne puissent raconter l'irracontable aux armées soviétiques, un génocide précédé de la déshumanisation d'un peuple par ses bourreaux.
Vous savez, quand ils se révélaient à soupe et qu'ils renversaient le tonneau qui était à moitié encore dans la neige, vous avez des milliers de femmes qui se précipitaient à quatre pattes en disant, voyez, les juifs, c'est pas des êtres humains, ils se comportent comme des chiens. On avait quand même une forme de dignité en disant, de toute façon, comme on sortira pas d'ici, on va pas se donner en spectacle.
L'idée, c'était d'anéantir un peuple, mais avant cela, lui enlever toute forme d'humanité.
Toute forme d'humanité. Dans le fond, c'était leur principal but, c'était dans leur programme. Et vous voyez, on a quand même tenu dignement, comme on a pu.
Vous dites quand même, encore aujourd'hui, que finalement vous êtes quelque part resté. Il y a une part de vous qui est restée dans ce camp.
Donc on a fait la marche de la mort, on est arrivé à Bergen-Belsen. Alors là, ça a été un mouroir, un cimetière à ciel ouvert. Hein. C'était déjà au mois de février 45, vous vous rendez compte, hein. La guerre était pratique en France, la guerre était terminée depuis 44. Hein. Et là, c'était déjà fin janvier, début 45, on est arrivé au camp de Bergen-Belsen. Puis là, impossible de rentrer dans les baraques, était recouvert, il y avait des cadavres, les Allemands n'évacuaient même plus, des épidémies de typhus, enfin ça a été, je vous dis, un cimetière à ciel ouvert. Et alors là, il y avait encore des entreprises allemandes qui venaient chercher de la main d'œuvre pour aller travailler dans les usines, parce que pour eux, jusqu'à la fin de la guerre, ils étaient persuadés qu'ils allaient la gagner. Alors comme ils avaient mobilisé tous les Allemands disponibles, ils avaient besoin de main d'œuvre. Alors ils venaient encore dans les camps chercher de la main d'œuvre. Alors on a été sélectionné une centaine de femmes pour aller travailler dans une usine dans le sud de l'Allemagne, dans le camp de Flossenbürg. Alors là, ils nous ont remis dans des wagons à bestiaux. Nous, on a quitté le camp d'Auschwitz le 17 janvier. Le 27 janvier, les Russes ont libéré le camp. Alors, vous voyez qu'ils n'étaient pas loin. Hein. C'est dommage qu'on n'ait pas resté sur place, parce que là, on aurait quand même gagné encore 6 mois de... On serait revenu certainement beaucoup plus nombreux, parce que vous savez, cette marche de la mort, ça a été une véritable hécatombe. En janvier 45, hein, par moins 20, hein, quand vous avez déjà passé 16 mois dans un camp, vous voyez dans quel état déjà on pouvait être.
Pourquoi avoir attendu 1985 pour retourner là-bas?
De toute façon, ça ne fonctionnait pas. Là, ils ont commencé à faire le camp de Auschwitz, un musée et tout ça. Ça fonctionnait pas. Enfin, ça a à peine commencé. Alors maintenant, c'est devenu leur principale source de revenus. Hein,
J'ai même vu de la restauration rapide. Je crois que c'est la première boutique avant de rentrer à Auschwitz.
Oui, mais de toute façon, pour eux, maintenant, Auschwitz, c'est devenu Disney, c'est leur principale source de revenus. Moi, j'ai connu le camp avec des cris, des chiens qui aboyaient, des femmes qui hurlaient. Enfin, ça hurlait jour et nuit hein, dans le camp. Et là, vous tombez dans un silence de mort. Moi, j'ai pas reconnu le camp. Hein. Je l'avais jamais connu comme ça.
Est-ce que vous lisez? Oui, j'imagine. Mais est-ce que vous regardez, par exemple, les films? Il y a eu un film sur la rafle du Veldiv. Est-ce que vous regardez ces témoignages?
C'est-à-dire que quand le film La Rafle est sorti, évidemment, moi, La Rafle, je l'ai vu dans la rue, mais je ne l'ai pas vu au Veldiv. Ouais. Donc, vraiment, ce film retrace exactement ce qui s'est passé dans ce Veldiv. Hein. Avant, il y a eu quand même le film de la Reine.
Nuit et brouillard
qui a été interdit parce qu'on voyait les gendarmes français qui gardaient les camps. enfin, tout ce qui avait trait à la Shoah était interdit, parce qu'il faut vous dire qu'après la guerre, quand De Gaulle a repris le pouvoir, il a fallu reconstruire la France qui était complètement démolie, il lui a fallu des hauts fonctionnaires, ben, il a pris ceux qui étaient en place. Ceux qui étaient en place, c'était Papon, Touvier, toute cette clique qui avait fait les listes pour faire... Alors comment voulez-vous, on n'a jamais eu le droit à la parole.
La parole, vous la prenez encore aujourd'hui. Vous allez rencontrer des lycéens... raconter votre histoire. On est le 30 novembre, ce 30 novembre, hasard du calendrier, une femme noire qui a été espionne va rentrer au Panthéon. Et à côté de ça, il y a un polémiste qui va annoncer sa candidature aux élections, un polémiste qui réhabilite le maréchal Pétain.
Vous savez, quand je vois ce type, il est infect, il est dangereux, il est nuisible. Il me fait penser, enfin, du temps d'Hitler, il y avait son ministre de la propagande, Goebbels. Ça fait un peu comme Trump, plus c'est gros, plus ça passe. Parce que dire que Pétain a sauvé des juifs, mais il divague. Et puis quand on voit, quand il y a eu la manifestation, là, pour ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, de mettre l'étoile comme s'ils avaient été brimés, comme nous on a été brimés. Alors ils connaissent pas la dictature, hein, parce qu'en dictature, ils n'auraient pas défilé comme ça. Hein. Enfin, finalement, quand je vois ce type, eh ben, ça paraît affolant. Quand je vois Zemmour, je vois Goebbels. Il a la même façon de parler. Il est virulent. Il est n'importe quoi. Et il a quand même réussi à s'imposer. Et alors, vous voyez tous les médias, tous les plateaux, les journalistes qui sont en train de brailler devant ce type. Mais c'est quelque chose d'affreux, ça. Comment est-ce que les gens peuvent adhérer?
Les voix de celles et ceux qui ont connu, qui ont traversé l'histoire et l'Holocauste, s'éteindront. Si je vous dis que j'ai peur. D'après.
C'est-à-dire, moi, je voudrais quand même pas terminer sur sur du pessimiste, mais vous savez, ce que j'entends et ce que je vois actuellement, j'ai l'impression de revivre les mêmes événements qu'en 1940. Avec tous ces journaux d'extrême droite qui vilipendaient les juifs. Vous voyez, en 1941, je crois, il est sorti au Palais Berlitz, c'est une exposition qui s'appelait « Les Juifs et la France ». Et vous aviez des milliers de gens qui faisaient la queue pour aller voir ça.
Ouais.
Et là, quand vous voyez tous ces journalistes sur ces plateaux qui sont en train de bâiller d'admiration devant lui, dans le fond, on lui ouvre un boulevard.
Et comme je le disais, c'est jusqu'au bout. Jusqu'au bout.
Alors souvent, je leur dis, moi, pour terminer...
Vous éclairerez les...
Ah ben oui, parce que, vous savez, j'ai vu tellement d'élèves, je peux dire, depuis 1985, j'en ai vu des milliers. J'ai rencontré des élèves, j'ai commencé au niveau de la 3e, et je les ai retrouvés professeurs d'histoire. Donc on a quand même créé des vocations. Et vous voyez, moi, j'ai eu... Enfin, après la guerre, longtemps après la guerre, je me suis marié, j'ai eu 3 enfants. J'ai mon fils aîné qui est professeur d'histoire. Vous voyez, mon deuxième fils, il est maire de sa commune. J'ai mon autre fils là qui vit toujours à Perpignan, lui, qui a travaillé donc à la mairie de Saint-Cyprien. De toute façon, j'ai refait une famille qui sont dans le bain. Hein.
Et cet après-midi, il y a peut-être le petit-fils d'un garde forestier de Grenade qui sera.
Mais c'est vrai, moi, les générations sont passées. Bon, ces enfants ont grandi et quand je les retrouve, je suis en admiration devant eux en disant, vous voyez, on cherchait notre voie, on savait pas trop quoi faire. Ben. Et je leur dis souvent en finissant, vous savez, la chance qu'ils ont, c'est de vivre en France, que c'est un pays, enfin à l'heure actuelle, la démocratie est des fois un peu bancale, mais c'est ce qu'on a fait de mieux parce que, vous savez, entre la démocratie et la dictature, je leur dis souvent, vous savez, la dictature, ça mène à Auschwitz. Hein. Enfin, en espérant que... On en a quand même sensibilisé pas mal, qui prendront la relève.
MDM.
MDM, votre radio locale.